Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Chers frères et sœurs, la parabole de Jésus est assez surprenante, nous la connaissons bien. En lisant un peu rapidement, on pourrait peut-être croire que Jésus fait l'apologie de l'escroquerie, mais il n'en est rien, rassurez-vous. La clé de lecture pourrait être peut-être la dernière phrase de notre évangile. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. En opposant ainsi Dieu et l'argent, Jésus tente à dénoncer le risque de l'idolâtrie. C'est finalement là la question de la relation de l'argent au travail, du travail avec Dieu, et pour terminer peut-être de notre relation entre nous dans le travail voulu par Dieu et pour Dieu. Loin de vouloir bien sûr condamner l'argent, Jésus va nous en montrer les limites. L'argent, vous le savez, normalement qu'un moyen, il nous sert à accomplir tout acte de justice. Par exemple, il me sert à donner au peintre le salaire qu'il mérite, en accomplissant ainsi un travail que je ne peux pas faire ou que je ne sais pas faire. Cela sous-entend que cet argent me sert dans ma relation avec le peintre. Il a reçu des talents et il est juste que je le rétribue pour le service qu'il me rend. Ce n'est pas seulement un acte commercial, c'est un acte de justice, mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est de l'ordre de la création et de la répartition des dons de Dieu que le Seigneur donne à chacun. Dans l'ordre de la création, le travail est associé à une malédiction. La peine due au travail du sol, en cultivant des pommes de terre, par exemple, est un lieu d'accomplissement. C'est répondre au commandement du Créateur de dominer la création, de se la soumettre et de la rendre féconde. C'est un lieu aussi de prière d'action de grâce vis-à-vis de la surabondance des dons du Créateur, un lieu de visibilité de l'œuvre de Dieu, voire même peut-être pour certains, des preuves, une preuve de l'existence de Dieu pour ceux qui en douteraient. Et la richesse que me procurent finalement mes réserves de pommes de terre est aussi un lieu de partage avec les membres de ma famille. C'est aussi un lieu d'échange avec mon voisin qui, lui, cultive des carottes. Et comme ça, je peux faire du troc avec lui. Mais si je veux avoir des noix de coco qui, bizarrement, ne poussent pas en Picardie, on ne sait pas très bien pourquoi, eh bien, je peux faire valoir une certaine somme d'argent que représentent mes pommes de terre pour acheter à distance ces fruits en dehors de la Picardie. Vous me pardonnerez cette image un petit peu simpliste et naïve du commerce, mais je voudrais juste mettre en relief la dépendance de charité à laquelle notre condition de créature nous conduit. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas indépendants, nos talents ne peuvent se développer et porter du fruit que dans la mesure où je peux bénéficier des talents des autres. Car Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Dieu fait pleuvoir sur tous les jardins. C'est notamment la bénédiction de la Picardie. La juste mesure, c'est la reconnaissance de la grandeur de l'autre, c'est finalement la charité. Je nécessite la présence de l'autre simplement pour arriver de mes pommes de terre à avoir un produit fini pour le consommer. Je ne peux pas tout faire seul, ça serait possible, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Le lien avec la création pour subvenir aux nécessités de ma famille est un lieu de visibilité. C'est aussi un petit peu, comme on pourrait dire, un lieu de culte pour rendre ce qui est dû à Dieu, une réponse finalement à la providence de Dieu à mon égard. Et si le troc est la base de toute économie, nous avons vu apparaître au fur et à mesure des modes qui ne nécessitent plus forcément l'échange et le mouvement des produits, mais pour ne faire que des flux financiers. En tout cas, pour rester sur la valeur des produits dans leur valeur monétaire. Il faut avouer que cela est une avancée, est une très bonne chose. Et pour reprendre la parole de saint Pierre, chacun, selon la grâce ou le don reçu, mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants, d'une grâce de Dieu ou d'un don de Dieu qui est multiple et diverse. L'homme riche de notre parabole loue l'habileté de son gérant malhonnête, car il distribue aux autres la fortune de son maître. N'est-ce pas finalement ce à quoi nous sommes un petit peu tous appelés par notre baptême ? Il nous faut communier aux fruits de l'Esprit-Saint, mais il nous faut aussi surtout les communiquer. Il ne serait pas normal de recevoir quelque chose de bon sans pouvoir le partager aux autres. C'est finalement ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons partager ce qui nous est offert. C'est ce que l'on apprend aux enfants lorsque l'on leur donne un paquet de bonbons, par exemple. Et nous-mêmes, nous passons finalement notre temps à offrir aux autres ce qui ne nous appartient pas. Et à Dieu, de même, pendant la messe, nous lui offrons ce que nous n'avons pu faire pousser par nous-mêmes. Ce que nous lui offrons finalement n'est juste que notre réponse au grand commandement de la Genèse, le fruit de la terre et du travail des hommes. De fait, nous sommes tous et toujours débiteurs de Dieu. Et le risque que cela comporte finalement, c'est que se perde petit à petit le lien avec la création et surtout le lien de la relation entre les personnes qui font tous deux l'expérience de la bonté bienveillante et surtout de la surabondance des dons de Dieu. S'il peut y avoir un certain orgueil à posséder des greniers regorgeant de grains, il peut y avoir aussi un certain pouvoir de toute puissance dans la possession de l'argent, une tentation proche parente du péché originel. Ce moyen banal, qu'est l'argent, peut devenir une sorte de fin en soi, comme une idolâtrie. Car apportant une certaine jouissance de domination sur la créature, une forme d'indépendance par rapport au mouvement de la création. Peu importe les bénédictions de Dieu, peu importe qu'il fasse pleuvoir ou pas chez moi, peu importe du temps qu'il me donne, j'ai les moyens, j'ai la science, je sais faire pousser les légumes que je désire faire pousser. Je veux être comme un Dieu. Et le danger, c'est de me débrouiller sans Dieu. Je peux être comme un Dieu, je peux être dans la création, m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Et cette toute-puissance est rarement au service de la charité, est rarement au service de la relation entre les hommes. Mais elle tend plutôt à voir l'autre comme un obstacle, comme un concurrent de ma réalisation personnelle. Et si nous n'attendons plus rien de Dieu, si nous n'espérons plus et nous ne croyons plus en sa paternité bienveillante, alors c'est ainsi que l'on peut arriver au veau d'or dont nous avons parlé dimanche dernier. Mais la seule solution pour se recadrer et remettre un petit peu les yeux en face des trous, c'est de penser aux fins dernières. Reprenons la parole du gérant Ballonnette. Que ferais-je ? Que ferais-je puisque mon maître me retire la gérance ? C'est bien finalement la question des fins dernières. Que ferai-je le jour de ma mort, quand il me sera demandé des comptes de ma vie ? C'est vrai, il ne sera plus question de travailler, de bêcher la terre ou de mendier, parce que tout sera joué. Et la grande question du gérant, c'est qui m'accueillera ? Qui sera mon ami à ce moment-là ? Puisque les relations ici-bas ont été réduites à la juste rentabilité, parce que j'ai faussé les balances, j'ai augmenté les prix, j'ai diminué les mesures, j'ai réduit le pauvre en esclavage. Qui sera mon ami ? Permettez-moi de reprendre une parole de saint Augustin. De nombreuses personnes se fatiguent à enterrer leur argent sous terre, se privant également du plaisir de le voir, parfois toute leur vie, pour le simple fait de le savoir en lieu sûr. Pourquoi ne pas l'enterrer au ciel, où il serait bien plus en sûreté et où on le retrouverait un jour, pour toujours ? Comment faire ? C'est simple, poursuit saint Augustin, à travers les pauvres. Dieu te donne des messagers. Ils se rendent là où tu espères aller un jour. Dieu en a besoin ici, dans les pauvres, et il te le rendra quand tu seras là-bas. De fait, des amis, c'est ce que nous garderons au ciel, notre argent, aussi belle soit la plaque de notre cimetière, eh bien, au ciel, nous serons nus, nus comme au premier jour de notre vie. De fait, on pourrait voir cette mise à pied du gérant, cette souffrance du gérant, comme une bénédiction, comme une certaine miséricorde pour revenir à des relations justes et se remettre en route vers le ciel. C'est pour lui une occasion inespérée de revenir en relation avec la création, de revenir en relation avec ses frères. C'est finalement la situation dramatique du jugement dernier pour le riche, dont nous parlons juste un petit peu après cet évangile dans saint Luc, ce fameux riche avec le pauvre Lazare. Regardons-nous le pauvre comme celui qui, peut-être, sera le seul au ciel, digne et habilité à tremper son doigt dans l'eau pour apaiser les brûlures de nos lèvres. À quoi cela sert-il de gagner sa vie pour perdre le ciel? À quoi cela sert-il de travailler toute sa vie, amassant de grands biens, si ce n'est pas pour établir des relations de communion, pour vivre la charité? C'est finalement peut-être la seule chose qui nous restera un jour, où la mort viendra nous frapper. Alors, il ne faut pas oublier que nous vivons pour vivre, mais surtout, si nous voulons réussir notre vie, ne ratons pas notre mort. Permettez-moi de reprendre ces mots de Benoît XVI, prononcés il y a quelques jours aux jeunes des écoles catholiques de Twickenheim. « L'argent, leur dit-il, permet d'être généreux et de faire du bien dans le monde. » Mais à lui seul, il ne suffit pas à nous rendre heureux. Le bonheur est quelque chose que nous voulons tous, mais un très grand drame de ce monde est que tant de personnes ne le trouvent pas, parce qu'elles le cherchent là où il n'est pas. La clé du bonheur est très simple, le vrai bonheur se trouve en Dieu. Nous devons avoir le courage de mettre nos espérances les plus profondes en Dieu seul, non pas dans l'argent, dans la carrière, dans le succès de ce monde. Mais en Dieu, lui seul peut satisfaire les exigences profondes de nos cœurs. Une solution parmi tant d'autres, mais peut-être qui serait comme une introduction à toutes les autres solutions, s'il y en a une bien sûr, c'est de s'arrêter régulièrement, de s'arrêter comme Dieu l'a fait pour contempler son œuvre. Il nous faut nous arrêter le jour du sabbat, comme nous dit la lecture de ce jour, si vous voulez, le dimanche, pour prier, pour parler à Dieu, pour se présenter à Dieu, pour lui offrir le fruit de notre travail, le fruit de notre famille, la beauté de notre époux, de notre épouse, de nos enfants. Il nous faut absolument prier pour lui offrir toutes ces choses, pour nous rappeler la beauté de la vie, peut-être dans une société en crise, pour faire mémoire de la raison de notre labeur, et se remettre face à la fidélité de l'abondance de nos récoltes. Se remettre face à notre finalité, c'est finalement se mettre face à notre vocation à la sainteté, à revenir vers Dieu qui nous a tant et tant donné. C'est le moment de voir où est notre vraie richesse, où est notre maître. Il est parfois peut-être étonnant de voir certaines personnes qui vont sacrifier leur famille pour des carrières professionnelles, soi-disant que la crise est là et qu'il faut faire des sacrifices, que si on descend du train, on ne pourra jamais y remonter. C'est faux. La mesure de notre discernement, c'est nos premiers engagements, notre baptême, notre sacrement de mariage, notre fidélité à la recherche de la sainteté. Alors, à chacun de voir qui il adore, où est notre mammon. C'est là que se joue notre liberté, c'est là le vrai discernement à opérer chaque jour. C'est là l'héroïsme de nos temps, c'est là la sainteté de nos temps. Alors, demandons à la Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, de nous aider pour éclairer notre vraie richesse, offrons-la sur la patène, sur cet autel, que le Saint Sacrifice de la Messe nous serve à donner à Dieu la première place, les plus beaux fruits de notre travail. Que cette semaine, peut-être, la charité soit au centre de tous nos échanges, de toutes nos relations, de tous nos commerces. Que cette charité prime avant tout, que le Seigneur prime avant tout. Choisissons un seul maître, choisissons le bon, et la vie sera plus facile. Amen.